France Info.
Bonsoir, il voulait nous tuer, c'est ce que déclare Christophe Castaner devant les forces de l'ordre réunies à Paris. Le gouvernement muscle son discours après les violences commises samedi lors de l'acte 8 des Gilets jaunes. Le Premier ministre Édouard Philippe va prendre la parole ce soir. Le détail des mesures contre les casseurs, c'est à suivre évidemment dans les informés de France Info. Le boxeur de gendarmes à Paris, lui, s'est rendu à la police. Nous reviendrons sur la sortie de ring de Christophe Détinger qui a tenté de se justifier, vous le verrez, sur Facebook. La taxe d'habitation va-t-elle faire l'objet d'une marche arrière? L'idée de la maintenir pour les 20% de ménages les plus aisés est désormais sur la table. Le cardinal Barbarin se soumet à la justice des hommes pour ne pas avoir dénoncé les prêtres pédophiles. Le procès à Lyon de l'omerta dans l'église dépasse désormais nos frontières. Le souvenir enfin, les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, 4 ans déjà, et l'émotion reste intacte. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Myriam Ankawa.
Bonsoir, Jean-François.
Journaliste politique, présentatrice de Ça vous regarde. Très bonne émission sur LCP.
Merci.
Également à mes côtés, bonsoir Céline Mas.
Bonsoir Jean-François.
Bienvenue, directrice générale associée d'Occurrence. J'ai le plaisir de retrouver mes partenaires du lundi. Bonsoir François Dorcival.
Bonsoir Jean-François.
Bienvenue à vous, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Et bonsoir Stéphane Vernet.
Bonsoir, bonsoir.
Soyez également le bienvenu, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, Laurent Doulsan, le chef du service politique justice du service police justice de France Info, nous rejoindra dans la deuxième demi-heure de l'émission. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. À l'ultra-violence, nous opposerons l'ultra-fermeté, déclaration signée Christophe Castaner en fin de journée lors de ses vœux aux forces de l'ordre de Paris, alors qu'Édouard Philippe s'apprête à révéler les décisions prises afin de durcir le dispositif d'ordre public. L'acte 8 des Gilets jaunes a été marqué samedi par de la violence dont les images n'ont cessé de tourner depuis. Il voulait nous tuer, a martelé Christophe Castaner, on l'écoute.
Il voulait nous tuer. Voilà une phrase entendue trop souvent ces dernières semaines, par celles et ceux que vous accompagnez, par celles et ceux que vous dirigez. Il voulait nous tuer. J'ai pris un engagement devant vous, plusieurs fois déjà, celui de tout donner pour la sécurité. J'ai promis des moyens supplémentaires, ils sont là. J'ai promis des meilleures conditions de travail et d'engagement, nous y œuvrons.
Myriam Ankawa, est-ce qu'il y avait réellement, selon vous, l'intention de tuer, comme le dit le ministre de l'Intérieur ?
Ah, ça, il faut le demander aux Gilets jaunes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a évidemment de plus en plus de violences, de plus en plus de relents, des relents haineux, antisémites. On a vu aussi des députés noirs de la majorité attaqués. On a le sentiment que pour le gouvernement, eh bien, c'est au fond la manif de trop, c'est ce qu'il essaye de faire passer. Pour autant, on sent que le discours a un tout petit peu évolué, c'est-à-dire que très clairement, le ton s'est extrêmement durci. Aujourd'hui, alors on entend la Castaner qui dit qu'il voulait nous tuer, c'est extrêmement fort, mais on entend aussi un Griveaux qui continue à faire la distinction entre la masse des Gilets jaunes pacifiques qui ont le droit de manifester et les casseurs et les violences. Il y a, je trouve, une connotation d'extrême droite dans ce qui... Voilà.
Vous dites extrême droite ce soir.
Oui, bah oui, l'antisémitisme, ouais. La haine, la violence contre des élus de couleur. En tout cas, dans ce résidu de manifestants gilets jaunes violents qu'on voit dans les rues de la capitale, moins sur les ronds-points, mais ce qui s'est passé ce dernier week-end, oui, il y a un cran qui a été franchi.
Stéphane Vernet, vous partagez l'avis de Myriam Ankawa. Il y a une sorte de gradation, d'abord dans la violence et peut-être même dans la politisation à l'extrême du mouvement actuellement, de ce que l'on en voit les week-ends de mobilisation.
Alors sur la politisation à l'extrême, oui, ça elle existe, mais pas que l'extrême droite, je pense que l'ultra-gauche est là aussi en fait.
Les deux.
Oui, les deux, oui, clairement. Ensuite, la question c'est comment on fait pour sortir de cette spirale de la violence, parce que elle s'est installée. Ce qu'il faut quand même dire, et ce qui est quand même très étonnant ou très regrettable dans l'histoire de samedi, c'est que pour la première fois depuis le début du mouvement, vous avez deux groupes qui avaient déposé une demande d'autorisation de manifestation en préfecture qui avait été acceptée avec deux cortèges délimités. Ouais. et en fait une espèce d'embryon ou d'esquisse de service d'ordre et une volonté avec des consignes données au départ pour que les choses se passent de manière très pacifique et très et voilà et jusqu'en milieu d'après-midi les choses se sont très très bien passées. Et c'est à un moment, si vous voulez, où le cortège finalement voulait, avait l'intention de se rapprocher de l'Assemblée nationale, ce que ne pouvait pas accepter les forces de l'ordre, que le groupe a été nassé. Et le fait d'être nassé, d'être bloqué en fait à un endroit autour d'Orsay, a fait qu'à un moment, il y a des gens qui ont voulu forcer le passage, traverser la passerelle pour aller vers les Tuileries. Et c'est ce que ne pouvait pas les laisser faire les forces de l'ordre. Du coup, il y a une escalade, une bousculade, et ça se transforme en violence. Et le problème de ces violences depuis le départ, c'est que vous avez finalement des professionnels de la violence qui sont là et qui orientent les mouvements, alors qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, ils sont là, il y en a. Mais vous avez aussi plein de gens qui sont pas du tout des professionnels de la violence et qui sont là et qui se laissent complètement déborder, emportés par l'effervescence du mouvement et qui ont le sentiment que finalement ils ont été eux-mêmes victimes de violence, qu'ils ont été gazés, qu'ils ont été tapés et du coup que leur violence est légitime. Et on est depuis le début dans cette escalade permanente, dans cette spirale de la violence où chacun se renvoie la responsabilité en disant c'est parce que la police nous a attaqués qu'on a le droit de se défendre et on arrive à un truc où on s'en sort plus. Et le seul moyen de se sortir de cette spirale aujourd'hui, c'est par le dialogue. Si vous ne mettez pas des mots sur le conflit, si vous ne verbalisez pas, forcément, nous condamnons collectivement à la violence. Il faut trouver un moyen de passer à autre chose. Et je suis pas sûr que le fait de durcir le ton ou de dire ou de s'inscrire dans une espèce de rapport de force soit la meilleure solution. Mais ça reste à discuter.
Alors, je vais vous laisser le temps de d'écouter le rappel de l'info. Dans un instant, François Dorcival et Céline Mas, vous allez également réagir à ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur et surtout à la question comment on en sort. Mais pour l'heure, 20h10 sur France Info, rappel de l'info donc avec vous. Bonsoir Thomas Benesch.
L'archevêque de Lyon, jugé depuis aujourd'hui avec 5 anciens membres de son diocèse sur la défensive, il nie avoir voulu cacher des faits horribles. Philippe Barbarin comparaît jusqu'à mercredi pour des soupçons de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur des scouts de la région lyonnaise, des faits commis entre 1986 et 1991. Lui sera jugé à partir de jeudi. Le djihadiste français Mehdi Nemouche est apparu aujourd'hui pour une première audience à Bruxelles. 8 hommes, 4 femmes ont été désignés jurés ce lundi dans la perspective de ce procès. Mehdi Nemouche doit répondre de l'assassinat de 4 personnes dans le hall du musée juif de Bruxelles. Emmanuel Macron salue son engagement pour la liberté et l'honneur de la France. Guy Charmeau, doyen des compagnons de la libération, est mort ce lundi. Il avait 104 ans. Ils ne sont plus que 4 compagnons de la libération encore en vie. En 32e de finale de la Coupe de France de football, Lille reçoit Sochaux, club de Ligue 2. Le match démarre à 20h55.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Céline Mas, comment est-ce que l'on sort de cette spirale décrite avec beaucoup de précision à l'instant par Stéphane Vernet?
Bien malin qui pourrait le dire. Je lisais hier un article de Michel Serres qui disait qu'au fond, personne n'est capable aujourd'hui de prédire avec justesse et avec acuité la fin de cette crise. Ce que je voudrais dire par rapport à ce que disait Stéphane, c'est que ce mouvement, il porte en lui-même sa propre destruction. C'est-à-dire qu'en voulant finalement dynamiter un système dans lequel on estime, via un cri social, que plus rien n'est possible, on va alimenter d'une certaine façon la violence. Et ce qui est frappant par rapport à ça, une ambiguïté de l'opinion publique, c'est que si les Français sont moins nombreux à soutenir le mouvement, puisqu'on est autour de 55% aujourd'hui, ils sont quand même en même temps très nombreux à condamner la violence et donc on se retrouve avec une ambiguïté dont le gouvernement essaie de sortir par un discours républicain de rétablissement de l'ordre.
François Dorcival, la réponse, la séquence aujourd'hui, la bonne réponse, c'est donc une sorte de fermeté accrue.
Non, c'est pas une sorte de fermeté accrue. La fermeté.
Parce qu'il y a déjà eu un discours de fermeté. Il y a déjà eu ce discours-là.
A été affiché à de multiples reprises et notamment la semaine dernière avec deux manifestation, si je puis dire, de cette fermeté qui était l'arrestation, l'interpellation d'Éric Drouet, gilet jaune, leader, etc., le mercredi soir et le vendredi à la sortie du Conseil des ministres. Que vous dit Benjamin Griveaux? Il vous dit, dans les mots, nous n'avons pas été assez radicaux dans nos méthodes. Ensuite, le samedi, ce qui se passe, c'est que les pouvoirs publics, ça veut dire la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, nos services, informés par nos services de renseignement, s'auto-intoxiquent sur l'essoufflement du mouvement. Ils n'ont pas d'autres informations que l'essoufflement. Quand ils regardent les courbes de manifestations du samedi en samedi, ils se disent aujourd'hui, ça va s'effilocher. Et loin de s'effilocher, ils sont tombés sur un retour de flamme, en quelque sorte. Ce retour de flamme, et Stéphane l'a très bien dit, ne démarre qu'en milieu d'après-midi. Et surtout en fin d'après-midi. Et c'est là où cette violence est supérieure, en quelque sorte, au dispositif de sécurité qui avait été préparé malgré la déclaration qui avait été faite. Donc, les forces de sécurité ont été dépassées.
Dépassées et débordées.
Alors, aujourd'hui, évidemment, le ministre de l'Intérieur, comme le Premier ministre, essaie de reprendre la main, parce que s'ils perdent cette initiative-là, alors effectivement, on se trouve dans la situation qu'a décrite il y a un instant Céline, on ne sait plus où on va.
Alors puisque vous l'évoquiez à l'instant, François Dorcival, il est devenu, implicitement, il est devenu le temps d'un week-end le boxeur le plus célèbre de France, mais cette gloire éphémère s'annonce assez funeste. Hein. Christophe Détinger, vous le savez, c'est son nom, est en garde à vue après les coups portés samedi, on le sait, à deux gendarmes, dont l'un était à terre sur la passerelle Léopold Sédar Senghor, c'est non loin des Tuileries à Paris. Les images de ces exploits sont très virales. Hein. Elles n'ont cessé de tourner sur les écrans depuis. L'ancien champion de boxe s'est donc rendu lui-même à la police après avoir publié ceci, écoutez bien, et regardez sur son compte Facebook.
À force de se faire taper, ben oui, je me suis fait gazer le dernier jour. Oui, j'ai voulu avancer sur le CRS. Je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, bah, j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi.
Myriam Ankawa, que dire de cette sorte d'aveu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, tardif, hein, trop tard, hélas, pour ce monsieur, et de ce phénomène qui désormais se déroule sur les réseaux sociaux?
Bon, les réseaux sociaux ne sont pas des juges, ne sont pas des tribunaux. Il y a une enquête qui a été ouverte et il va être jugé. Son comportement est totalement inacceptable. Il y a plusieurs images qui ont circulé. On le voit boxer, mais ensuite on le voit avec d'autres rouer de coups plusieurs policiers à terre. Donc moi j'estime qu'il y a un degré de violence, et je le redis, qui est franchi. On va en parler, un ministère qui a été attaqué, celui de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Voilà, ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas avoir un comportement répréhensible et puis s'excuser par la suite sur les réseaux sociaux, même si il a le droit de se défendre et il a le droit d'expliquer ce qui l'a poussé à ce geste. C'est bien normal et il aura l'occasion de le faire d'ailleurs devant la justice. En revanche, je pense qu'on est à un moment où effectivement le gouvernement fait autant de politique qu'il doit maintenir l'ordre. Je pense aussi qu'il y a un problème de dépassement, mais je regrette qu'il n'y ait pas un tout petit peu plus d'union nationale pour condamner ces violences. Où sont les Républicains? Où est Marine Le Pen, qui a un petit peu parlé aujourd'hui? Où est Jean-Luc Mélenchon? Il y a les partis qui ont fait de l'ordre, de la sécurité, l'alpha et l'oméga de leur positionnement politique. Donc, il serait temps tout de même qu'on sache exactement où sont les lignes du respect de la République et les condamnations.
Pour un peu de clarté dans le débat politique. On peut répondre ceci, chère Myriam, c'est que la plupart des chefs politiques dont vous parlez ont appelé avant, là nous étions à la 8e édition, donc ça devait être avant la 6e, si ce n'est la 5e édition ou le 5e acte, à ne plus manifester. Ils ont tous lancé ce genre d'appel.
Et c'était une erreur.
Ils ont lancé ce genre d'appel et ensuite les manifestations se sont poursuivies. Alors, politiquement, est-ce que c'est intelligent de leur part de continuer à lancer des appels à ne pas aller manifester et de constater que ce qu'ils disent ou rien, c'est la même chose? Ça ne sert à rien. Il y a les pouvoirs publics qui sont en face d'un conflit. C'est au gouvernement, par conséquent, de résoudre et de trouver les issues de sortie de ce conflit. C'est pas à l'opposition.
À l'instant, le Premier ministre annonce un retour, dès samedi prochain, un dispositif, dit-il, de sécurité considérable, avec 80 000 forces de l'ordre, ce qui ne fait que renforcer ce que vous évoquiez à l'instant, François Dorcival. Stéphane Vernet, il y a eu, vous avez vu l'autre vidéo virale de ce week-end, où on voit, à l'inverse, un policier de Toulon qui boxe, si je puis dire, un jeune homme avec un tesson de bouteille vraisemblablement à la main, puis un gilet jaune qui a été un petit peu le boxeur contre boxeur du week-end. On a l'impression désormais que tout se passe sur les réseaux sociaux et qu'il y a une espèce d'effet boule de neige dans une certaine partie de l'opinion.
Mais c'est plus qu'un effet boule de neige, c'est une hystérisation du débat. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ils sont aussi à la base du mouvement, et il y a un miroir déformant qui est phénoménal. Ce que reprochent les Gilets jaunes, par exemple, à la télévision, chaîne d'information en direct, à travers la sélection des images ou des témoignages, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. En pire, parce que vous avez aussi les tombereaux de fake news qui circulent, etc. Le problème, c'est que les images sorties de leur contexte, elles sont toujours menteuses. Celle du boxeur comme celle du commandant de police à Toulon. C'est-à-dire qu'on n'y était pas. Vous n'avez qu'une perception très partielle.
Oui, des ersatz d'images, quoi, de films.
Vous ne savez
de
pas
vidéos.
Ce qui se passe avant. Oui. Vous savez, là, ce commandant de police dit que la première personne, le premier manifestant qui boxe aurait eu un tesson de bouteille à la main.
C'est pour ça que je disais
moi, je regarde les images, je ne le vois pas. Non. Sauf que c'est pixelisé, c'est très mauvais, etc. Voilà. Si vous voulez, à un moment. La confiance, enfin moi personnellement, je fais confiance à la justice de mon pays qui est indépendante.
Et là, en l'occurrence, il y a une enquête de l'IGPN qui a démarré.
Concernant c'est plus surprenant. Alors après, ce qui pose quand même question, c'est que j'ai trouvé que le procureur de la République avait été très rapide pour dire que finalement les violences étaient tout de suite. Si on veut encore une fois sortir de cette spirale de la violence, il faut les dénoncer et les dénoncer toutes. Quand il y a des CRS, des policiers, des gendarmes qui se comportent au-delà de ce qui est proportionnel, normal et attendu, il faut aussi pouvoir les identifier, les sanctionner, comme les manifestants.
Mais encore un mot sur ces manifestations. Céline Masse, vous rejoignez Myriam Ankawa quand elle nous dit qu'au fond, il n'y a pas de message en face, si je puis dire, républicain, ou d'appel au calme, ou de messages structurés pour essayer d'apaiser le débat.
De la part des partis politiques ?
Oui.
Oui, je pense que les partis n'ont rien compris, parce que essayer de faire de la récupération politique sur un mouvement qui porte en son sein la dissolution de tous les corps intermédiaires, c'est se tromper complètement de méthode.
Donc c'est pas la peine d'en appeler au calme.
Et un deuxième, en tout cas, penser qu'ils peuvent être eux-mêmes soit une solution, soit un guide dans cette situation troublée, c'est complètement irréaliste. Et un deuxième point qui me frappe dans le discours du boxeur, quand même, je voulais le souligner, c'est qu'il utilise un discours qui est aussi repris par certains membres des Gilets jaunes non radicalisés, qui est de dire, devant la violence des puissants, qui est une violence invisible et une violence sociale, on répond par une certaine forme de violence. Ça n'est évidemment pas défendable. Mais en tout cas, c'est la rhétorique qui se cache derrière sa prise de position.
Qui est reprise par beaucoup de politiques.
Il
faut dénoncer, c'est inadmissible.
Voilà. Ils sont en train de légitimer
le retour et le recours à la violence dans l'espace public et en politique.
C'est
et ça, si on laisse faire ça, on ne s'en sortira pas.
C'est la raison pour laquelle le dispositif doit être dissuasif, donc massif.
Allez, 20h20, presque 21 minutes sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Édouard Philippe se dit favorable ce soir à la rédaction d'une nouvelle loi pour répondre aux actes de violence en marge de mobilisation de Gilets jaunes. Elle pourrait être présentée début février, fait savoir le Premier ministre. Dès ce samedi, en vue de nouvelles manifestations, 80 000 forces de l'ordre seront déployées, a ajouté Édouard Philippe. Les deux chefs du gouvernement populiste italien prennent position en faveur des Gilets jaunes français. Le vice-premier ministre, chef de file de la Ligue, Matteo Salvini, a souhaité devant la presse la démission d'Emmanuel Macron. Gilets jaunes, ne faiblissez pas, écrit de son côté sur le blog du mouvement 5 étoiles Luigi Di Maio. Une tentative de putsch militaire a échoué aujourd'hui au Gabon. Deux officiers sont morts, d'autres sont interpellés, dont leur chef. La nuit dernière, il a pris la parole au siège de la Radio Nationale pour inviter la population à un soulèvement contre le président Ali Bongo. Il est en convalescence actuellement au Maroc à la suite d'un AVC. Donald Trump face à la nation demain soir. Le président américain s'exprimera sur son projet de mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique. Les démocrates y sont opposés. Le sujet paralyse une partie de l'administration américaine en ce moment.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors c'est une annonce qui passerait presque inaperçue aujourd'hui vu le contexte, et pourtant la taxe d'habitation pourrait être finalement maintenue pour les 20% des foyers les plus aisés. L'idée est sur la table, a déclaré Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. C'était sur France Inter ce matin, la veille, donc hier, Bruno Le Maire, invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, avait déclaré que Bercy pourrait revenir en arrière si une demande en ce sens était émise lors du futur grand débat national. Pas du tout d'accord, Laurence Salier, la porte-parole des Républicains.
Le président de la République ne sait plus quoi faire pour bien faire. Et là, il essaie peut-être de laisser penser qu'il ne serait pas le président des riches en laissant quand même la taxe d'habitation pour les 20%. Enfin, tout ceci n'est pas responsable. On ne peut pas gérer le budget de l'État ainsi.
Gaïa Mankawa, c'est un gage donné au mouvement des Gilets jaunes, selon vous ?
En tout cas, c'est très maladroit parce qu'on ne fait pas la réponse au débat avant que les débats n'aient eu lieu.
Ça, c'est
déjà
bien
vu. Franchement, vous dire, bon voilà, on va faire un grand débat national, c'est historique, ça n'a jamais fait. On va donner sa chance aux citoyens, à la démocratie participative, tout va repartir du bas. Et puis boum, on vous dit au passage qu'on a une petite idée pour en sortir. Donc non, ce que je remarque, c'est que le gouvernement, par cette possibilité, cette mesure sur la table, cherche de la justice. De la justice sociale. C'est le signe qu'il a compris que c'est une demande qui émane des Français, et pas seulement des Gilets jaunes, plus de justice sociale. Alors, est-ce qu'on peut faire plus de justice sociale avant le débat, sans passer par le rétablissement de l'ISF, sans passer par une ouverture d'une réflexion sur la fiscalité des successions, dont on sent que cette question est en train de monter, y compris au sein de la majorité, qui veut s'en emparer au-delà du think tank Terra Nova? La question est ouverte. Et je voulais faire une remarque. J'entendais donc que le Premier ministre vient d'annoncer une nouvelle loi, mais quel aveu d'impuissance. Je suis très étonnée qu'on fasse encore une loi sécuritaire.
Ouais, une loi, sachant, je précise, durcissant les sanctions contre les casseurs et les manifestations non déclarées.
Donc, voilà. Sans doute un fichier
comme
national,
si c'est sans doute un fichier aussi, un fichier national.
Qui est peut-être sur la table, mais ça veut dire que voilà, la précédente loi qui, je le rappelle, mettait dans l'état de droit l'état d'urgence, une partie, se révèle bien inutile à ce stade.
Céline Mast, on a l'impression que le débat se dessine avant le débat ?
Oui, en effet, et il y a deux choses moi qui me frappent, c'est d'abord l'égalité devant l'impôt que le Conseil constitutionnel risque quand même de retoquer, et un autre point, c'est que si on pense que la taxe d'habitation est un dérivatif au fait que l'impôt sur la fortune soulève une grande partie des Gilets jaunes, c'est une grave erreur, parce que l'impôt sur la fortune, ça porte sur l'accumulation de richesses. Au cœur d'une mondialisation dont on se dit que le jeu n'est pas somme nulle parce qu'il réussit à un certain nombre de gens versus une grande majorité qui y perd et la planète en plus qui chute, alors que l'impôt, la taxe d'habitation, c'est le fait d'habiter quelque part qui va de toute façon susciter beaucoup moins de révoltes sociales. Donc c'est à mon avis aussi stratégiquement, politiquement, on passe à côté du sujet.
Alors je rappelle que les fameux 20% en question, pour être précis, cela concerne les célibataires qui gagnent plus de 27 000 euros par an, ou des couples sans enfants au-delà de 43 000 euros, pour être plus précis, ou des couples avec deux enfants à 55 000 euros. Le résultat des courses, ça donnerait 7 milliards d'euros finalement conservés par le gouvernement. Stéphane Vernet, on est dans de la comptabilité fiscale à l'ancienne un petit peu quand même, non ?
Bah alors, si vous voyez, ce qui est incompréhensible, c'est le côté deux pas, enfin un pas en avant, deux pas en arrière. L'idée, c'est de dire, on avait proposé de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages et de la garder pour les 20% les plus aisés. Dont acte, c'est vrai, c'est ce qu'avait proposé le gouvernement au départ. En disant le Conseil constitutionnel ne sera pas d'accord du fait de la problématique de l'égalité face à l'impôt, ce que disait Céline. Maintenant, finalement, il trouve que ça pourrait passer et que, bon, ok, il faut voir. Le problème, c'est quel est l'objet de ce changement d'avis ? Est-ce que, si c'est pour répondre aux Gilets jaunes, effectivement, ils sont complètement à côté de la plaque et c'est une erreur. Il y a peut-être un autre souci, c'est que derrière la suppression de la taxe d'habitation, il se pose quand même la question de la réforme et de la refonte fiscale de tout le système, notamment toute la fiscalité locale. Et peut-être que ils sont en train de se rendre compte que c'est loin d'être aussi simple qu'envisagé au départ et que c'est mieux de garder un petit peu de sous via la taxe d'habitation. Je ne sais pas. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que la problématique de la fiscalité, c'est que pour que la fiscalité fonctionne, il faut qu'il y ait une stabilité. Si vous dites blanc un jour, noir le lendemain,
ça ne marche pas.
Ça peut pas marcher. À ce compte-là, autant rétablir tout de suite l'ISF. Parce que l'ISF était fait pour rétablir la confiance et faire revenir les gros investisseurs. Avec ce qui se passe en France, c'est mort. Ils ne reviendront pas. Donc, ils peuvent rétablir l'ISF.
François Dorcival, dernier mot là-dessus avant la pause. Ça va faire plaisir aux classes moyennes sup, les
supérieurs. C'est-à-dire aux électeurs d'Emmanuel Macron. Ils vont être enchantés de voir la fiscalité qu'on leur applique. Fiscalité qui est l'un des thèmes du grand débat. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit il y a un instant, cette fiscalité, elle est déjà complètement mise en cause, puisque on annonce une décision. Mais j'ajoute autre chose, c'est que les classes moyennes supérieures, désormais, c'est à partir de 2500 euros que vous êtes riche célibataire. Pour François Hollande, c'était quand même 4000 euros. Maintenant, 4000, c'est pour un couple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les classes en question vont se dire, puisqu'il n'y a plus que nous pour payer cette taxe, elle ne va cesser d'augmenter.
Allez, 20h28, nous nous retrouvons dans un instant après la météo, le rappel de l'info, et nous poursuivons avec un retour sur les mesures annoncées par Édouard Philippe.
C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Une perturbation arrive par le nord ce soir avec de petites pluies et de la neige à basse altitude sur les Vosges. Demain matin, il pleuvra faiblement du sud de la Bretagne et des Charentes vers le centre, le Massif central, l'Alsace et Rhône-Alpes. Il neigera vers 600-800 mètres sur le relief. Ailleurs, les nuages auront l'avantage. On aura plus de soleil des Pyrénées au sud des Alpes et sur l'est de la Corse. Il fera moins 3 degrés à Aurillac, moins 1 à Tarbes et Grenoble, 0 à Marseille, 7 degrés à Paris, à Brest. L'après-midi, les petites pluies s'étendront du sud-ouest aux régions de l'est, toujours avec un peu de neige sur les massifs. La neige pourrait tomber à très basse altitude, d'ailleurs sur le sud du Massif central en fin de journée. Prudence sur les routes. Du nord-ouest au nord de la Seine, on aura quelques éclaircies. Plus belles sur la Bretagne, le Cotentin ou la Côte d'Opale. Le littoral méditerranéen gardera un ciel lumineux avec du vent fort. Les températures iront de 5 à 11 degrés et jusqu'à 16 sur le sud-est.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Édouard Philippe annonce un retour dès samedi prochain, un dispositif de sécurité considérable, a-t-il dit, avec 80 000 forces de l'ordre, ainsi qu'une nouvelle loi durcissant les sanctions contre les casseurs et les manifestations non déclarées. Le Premier ministre qui s'exprimait tout à l'heure dans le 20h de TF1.
Je suis très favorable à l'idée que dans une démocratie comme la France, on puisse librement manifester. Il faut préserver la liberté de manifester en France et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, si on veut à la fois défendre la liberté de manifester, si on veut faire en sorte que ceux qui ne sont pas d'accord avec une mesure puissent le faire pacifiquement, dans la rue, comme c'est leur droit, je crois qu'il faut faire évoluer notre droit et compléter une disposition législative dans notre droit.
Le Premier ministre Édouard Philippe, tout à l'heure sur TF1. Deux informations judiciaires ouvertes sur les éventuelles violences commises samedi à Toulon par trois hommes après une manifestation de gilets jaunes, mais aussi sur leur interpellation par un policier filmé en train de les frapper. Et puis la ville de Saint-Nazaire a, elle, déposé plainte contre X après les dégradations qui ont eu lieu en centre-ville lors de la manifestation des gilets jaunes de samedi. Les dégâts sur le mobilier urbain et la voirie s'élèvent à plus de 100 000 euros. D'après la mairie, 8 agences bancaires ont notamment été vandalisées. Le dessinateur de presse Alex a porté plainte après avoir reçu une menace de mort suite à la publication vendredi dans le courrier Picard d'une caricature d'Éric Drouet, l'une des figures médiatiques du mouvement des Gilets jaunes. Le dessinateur a reçu ce matin sur France Info le soutien de Rhys, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Le procès de Philippe Barbarin reprendra demain. L'archevêque de Lyon a jugé pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Ses avocats ont fustigé ce matin d'emblée un procès spectacle. « Je n'ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles », a déclaré Monseigneur Barbarin. L'étranger Donald Trump qui se rendra jeudi à la frontière américano-mexicaine. Le chef de la Maison-Blanche cherche à obtenir du Congrès qu'il finance la construction de son mur anti-migrants, avec en toile de fond la poursuite du shutdown partiel des activités du gouvernement américain en raison de ce blocage avec le Congrès. Une fermeture qui dure depuis le 22 décembre et 800 000 fonctionnaires sont touchés. Donald Trump qui devrait s'exprimer demain devant la nation. Dernier match des 32e de finale de la Coupe de France de foot. Ce soir, Lille, pensionnaire de Ligue 1, affronte Sochaux, club de Ligue 2 à partir de 20h55. Après le tirage au sort, le PSG recevra en 16e de finale Grenoble ou bien l'équipe de Strasbourg. Lyon ira de son côté à Amiens. 20h33, les informés.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Myriam Ankawa, journaliste politique, présentatrice de Ça vous regarde, émission que je conseille sur LCP, avec Céline Masse, directrice générale associée d'Occurrence, avec François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, avec Stéphane Vernet, le directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et j'ai le plaisir d'accueillir mes chers collègues, bonsoir à tous les deux, bonsoir, Laurent Doulsan, chef du service police et justice de France Info, et vous Yannick Falt, reporter au service politique de France Info. Alors, le Premier ministre Édouard Philippe a fait ses annonces aux 20h de TF1. Je commence avec vous, Laurent Doulsan. Qu'est-ce qu'il a annoncé, grosso modo? On l'a dit, hein, une loi et un dispositif de sécurité renforcé.
Mais surtout, il n'a pas été aussi loin que ce que réclamaient les syndicats de policiers ces derniers jours. Il y avait deux mesures dont on parlait beaucoup, qui allaient peut-être être mises en avant par Édouard Philippe, et ce n'a pas été le cas. C'était la création très rapide d'un fichier recensant tous les manifestants violents en amont des manifestations, permettant de les repérer et de les interpeller. Il y avait une deuxième demande qui était le mandat de dépôt quasi obligatoire pour toutes les condamnations à de la prison ferme en comparution immédiate avec les casseurs, toutes ces...
Pourquoi pour des casseurs, pour des agressions de policiers?
Pour les faits de violence relevant de la prison ferme, et on demandait à ce que cette prison ferme soit effective très rapidement, etc. Édouard Philippe n'a pas été sur ce terrain-là. Il a retenu l'idée du fichier des manifestants violents en disant qu'on pouvait s'inspirer de ce qui se faisait déjà en termes de prévention du hooliganisme dans les stades, mais il n'a pas été plus loin. En revanche, il a annoncé une loi, l'adoption rapide d'une loi pour sanctionner ceux qui ne déclarent pas les manifestations, ceux qui ne les déclarent pas, les organisateurs, et ceux qui y participent. Une loi à venir rapidement. Il a parlé de l'échéance de février, mais une loi dont les contours sont encore assez flous. Pour le reste, il s'en est tenu à l'actualité immédiate, c'est-à-dire au week-end prochain, à l'acte 9 des Gilets jaunes, si je me souviens bien.
C'est l'acte 9
à venir. Et là, il a affiché une fermeté de circonstances. Il a dit à propos des casseurs, ils n'auront pas le dernier mot. Et en ce qui concerne le dispositif, il a annoncé 80 000 hommes, CRS, gendarmes mobiles, etc., déployés sur l'ensemble du territoire, dont 5 000 pour la seule capitale Paris.
Alors Yannick Falt, il était question d'un message de fermeté de la part du gouvernement. Est-ce que selon vous, le compte y est ce soir?
Au-delà du fond, oui, sur la forme, le message de fermeté est là, avec cette phrase, effectivement, ceux qui remettent en cause les institutions, les auteurs de violences n'auront pas le dernier mot, prévient le chef du gouvernement. Une fermeté dans la veine de celle de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, un peu plus tôt, qui avait déjà donné le ton à l'ultra-violence. Nous opposerons l'ultra-fermeté, déjà exprimée par Emmanuel Macron après l'intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux samedi, et fermeté également, retour à l'ordre républicain revendiqué, demandé par le chef de l'État lors de ses vœux du 31. Un positionnement défendu par l'entourage d'Emmanuel Macron qui estime que l'exécutif a déjà répondu aux préoccupations, aux revendications sur le pouvoir d'achat avec les mesures annoncées en décembre.
Oui, c'est toujours un peu le même discours, celui qu'on entend depuis quelques jours, semaines de la part du gouvernement. Finalement, on est toujours sur la même position.
C'est ça, le pouvoir d'achat s'est fait avec l'augmentation de 100 euros de la prime d'activité. La défiscalisation des heures supplémentaires, l'annulation de la CSG pour les retraités. Le désir de plus de démocratie participative s'est fait aussi avec l'organisation du débat qui va débuter.
Le grand débat,
qui va débuter le 15 janvier. Et donc désormais, c'est la fermeté pour les auteurs de violences et les casseurs.
Stéphane Vernet, on fait tourner la parole rapidement. Ils vont être déçus, les syndicats de policiers, d'après ce que dit Laurent Doulsan. Il y avait une attente forte sur ces fichiers de référence.
Bon, écoutez, je sais pas si les syndicats de police vont être déçus ou pas, probablement. Je pense que le problème, c'est que les gilets jaunes eux-mêmes vont aussi monter au créneau en disant que c'est une nouvelle provocation, etc. Et encore une fois, on est dans cette spirale de la violence qui n'en finit pas. Pour moi, le seul moyen d'en sortir, c'est vraiment le retour au dialogue.
Ouais.
Il peut se faire à travers le grand débat national, mais il peut surtout se faire si les Gilets jaunes eux-mêmes marginalisent ceux et celles qui veulent avoir recours à la violence dans leur rang. Oui, mais regardez, samedi, il y avait un groupe de Gilets jaunes qui était reçu au siège de la Provence.
Chez Bernard Tapie.
Mais qui sont ceux qui ont créé la coordination nationale des Gilets jaunes.
Mais il y en avait dehors qui n'étaient pas d'accord.
Il y avait quand même quelques figures du mouvement qui étaient là et qui ont la volonté de porter la parole sur un terrain politique et de trouver d'autres façons d'agir et de faire valoir leurs revendications. Et effectivement, il y en a qui étaient dehors et qui n'étaient pas d'accord. Mais tant qu'en fait le mouvement lui-même ne sera pas capable de se structurer et de marginaliser les éléments violents, on n'avancera pas.
Laurent Doulsan.
Oui, je crois que l'intervention d'Édouard Philippe illustre aussi la grande difficulté du gouvernement à pouvoir gérer ce mouvement ou les dérives de ce mouvement et de devoir légiférer quasiment en direct, puisqu'il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels il faut changer la loi et on ne peut pas la changer d'un week-end à l'autre. La première échéance la plus proche, c'est février.
C'est trop loin.
Dans ce mouvement des Gilets jaunes, ça paraît loin.
Myriam Ankawa, on est sur la même mécanique que de celle du passé, finalement, un problème, une loi, c'est ça ?
Oui, alors ça, c'est vraiment un problème français. La fermeté, ça ne marche qu'à une seule condition, c'est l'efficacité. Donc, multiplier les discours de fermeté, c'est vraiment prendre le risque, s'il n'y a pas de résultat, si le gouvernement et les forces de l'ordre se font déborder, de se mettre dans une situation de faiblesse. Donc c'est risqué aussi de jouer la fermeté, c'est risqué aussi parce que ça va peut-être renchérir le mouvement, remettre de l'huile sur le feu, donner envie à des gilets jaunes de se radicaliser, parce qu'ils se sentiraient pointés du doigt. Donc c'est vrai, oui au dialogue, je suis d'accord avec Stéphane, il faut absolument que ça vienne des deux côtés, du gouvernement, de la commission du débat, des élus, mais aussi des gilets jaunes.
Céline Mas, fermeté risquée, vous diriez, vous aussi ?
Oui, parce qu'en fait, le balancier entre la fermeté et le dialogue, et un dialogue dont on a instauré les règles et dont on n'a pas co-construit les règles avec les gilets jaunes, alors que c'est au cœur de la revendication, c'est un équilibre très difficile à tenir. Et par ailleurs, je pose la question de 80 000 forces de sécurité le week-end prochain et quid des autres week-ends ? Est-ce qu'on va continuer comme ça toute l'année 2019 ? C'est Yannick, quand même un gros sujet.
Le mot de la fin, Yannick Falt, sur cette séquence, une classe politique qui est toujours un petit peu à la marge, hein, quand même, hein, finalement.
Oui, et puis un sujet qui n'a pas été évoqué par le Premier ministre, ce sont quand même ces images incroyables rue de Grenelle samedi, l'intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux. Comment ce groupe s'est retrouvé là, alors que c'est l'un des endroits les plus sécurisés en théorie de la capitale? On est au cœur du pouvoir, il y a des barrages partout. Il n'y a pas de réponse là-dessus et il n'y a pas non plus de conséquences en termes de sanctions, notamment par rapport au préfet de police de Paris.
Dernier mot, alors justement, un dernier mot là-dessus avec vous, Laurent Doulsan, c'est Monsieur Delpech, il est sur la sellette vraiment ou ça a été dit, redit, on ne sait pas trop. Hein.
Ça a été dit depuis ce week-end, Monsieur Delpech est sur la sellette, mais pour l'instant, ce soir, rien ne bouge.
Allez, 20h40 sur France Info, rappel de l'info. Merci messieurs, avec vous Thomas Bénèche.
Christophe Détinger, toujours ce soir en garde à vue, cet ancien boxeur s'est rendu de lui-même ce matin à la police. Il est soupçonné d'avoir frappé deux gendarmes samedi à Paris en marge du défilé de Gilets jaunes dans la capitale. Une cagnotte lancée sur Internet pour le soutenir a déjà permis de recueillir plus de 62 000 euros. Édouard Philippe répond aux incidents réguliers en marge de manifestations de Gilets jaunes en France. Il annonce ce soir à la télé une nouvelle loi qui pourrait être présentée début février. Elle viserait à durcir les sanctions contre les casseurs et les manifestations non déclarées. Handball, les Français achèvent leur préparation pour le mondial par une victoire. Succès 29-21 face à la Slovénie. La Coupe du Monde pour les handballeurs tricolores démarre vendredi avec pour premier adversaire le Brésil. L'Espagnol Juan Barreda remporte sur Honda la première étape du Dakar 2019, catégorie moto. Ce tout premier parcours avait lieu entre Lima, Episco, Pérou, pays où se déroule exclusivement cette année le rallye.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Allez, nous l'évoquions à l'instant pour vraiment conclure sur cette séquence aujourd'hui concernant les suites de ce week-end, de ce mouvement des Gilets jaunes et les violences survenues à Paris. On écoute ce que disait justement le Premier ministre, c'était sur TF1 il y a une demi-heure.
On a pris des mesures à l'époque qui avaient surpris et parfois interrogé, mais qui ont permis de faire en sorte que ceux dont on savait qu'ils venaient au stade exclusivement pour casser, pour provoquer, et absolument pas pour participer ou assister à une manifestation sportive, puissent être, dès lors qu'ils étaient identifiés, interdits de participation à ces manifestations, qu'ils aillent, le cas échéant, pointer au commissariat.
Donc vous allez faire une chose, vous allez faire un fichier pour manifestants.
Ce dispositif, il a bien fonctionné. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, si on veut à la fois défendre la liberté de manifester, si on veut faire en sorte que ceux qui ne sont pas d'accord avec une mesure puissent le faire pacifiquement dans la rue, comme c'est leur droit, je crois qu'il faut faire évoluer notre droit et compléter une disposition législative dans notre droit.
Voilà, tout a été dit hein, autour de cette table. François Dorcival, dernier mot là-dessus.
Vraiment, juste un dernier mot, mais l'histoire des manifestations non déclarées, ils nous le font depuis le 17 novembre. 17 novembre, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier. De la même manière, on a l'impression que tous ceux qui ont été interpellés, qui sont passés en comparution immédiate, qui ont été condamnés, l'ont été condamnés en vertu de quelle loi ? Puisqu'on va encore en faire une nouvelle. Non, franchement, même les gens des ronds-points, si on veut appliquer le code de la route, ils peuvent être dégagés en fonction des lois existantes. Donc, je vois pas bien l'utilité de tout ça. Surtout, on est étonné que ce qui est appliqué aux hooligans ne puisse pas l'être aux casseurs.
Allez, nous allons aborder à présent le procès de Mgr Philippe Barbarin. C'est le premier jour, hein. Il y en aura trois devant le tribunal correctionnel de Lyon. Vous le savez que le primat des Gaules doit répondre avec cinq autres prévenus de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Il est accusé donc d'avoir caché à la justice le passé pédophile d'un prêtre, le père Bernard Prénat, qui aurait abusé de jeunes scouts entre 86 et 91. C'était bien avant l'arrivée du cardinal Barbarin à Lyon. Le père Pierre Vignon du diocèse de Valence qui avait réclamé la démission du cardinal archevêque de Lyon dans une pétition, et bien publie un livre intitulé « Plus jamais ça » aux éditions de l'Observatoire. Son message ce matin, c'était au micro de Léa Salamé sur France Inter.
Maintenant, il faut qu'il y ait un avant et un après.
Vous écrivez cette petite phrase dans votre très dur dans votre livre. Disons-le clairement, les pédophiles ont trouvé au sein de l'Église une structure favorable pour développer leur activité criminelle.
Ah ben, c'est-à-dire avec des évêques de style paternaliste, mon Dieu, mais qui je vais mettre à cette paroisse, CIA, etc. C'est cette fausse bienveillance qu'il faut casser. Mmh. Et ça, notre hiérarchie a été gravement fautive, et c'est ça qui doit être puni aujourd'hui à travers le procès du cardinal Barbarin.
Stéphane Verdier, le cardinal Barbarin serait coupable d'omerta, c'est un petit peu la trame de ce procès.
Alors, encore une fois, il est devant la justice, son procès vient de commencer, on va laisser la justice se prononcer. Moi je suis pas juge, après, si vous voulez,
soupçonné d'omerta.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que les faits, si j'ai bien compris, se seraient déroulés dans les années 80-90. Lui, il en a eu connaissance à partir de 2007, mais que partiellement. Et il n'a pris son poste qu'en 2002, Mgr Barbarin. Oui. Donc pas au moment des faits. Et que les choses se seraient précisées pour lui en 2014. Son avocat plaide en disant que, à ce moment-là, les faits étaient prescrits, donc il n'avait pas à les signaler à la justice. Et s'il se retrouve devant le tribunal, c'est que le parquet estime que c'est pas aussi simple que ça. Et que même si les faits étaient prescrits, il aurait dû les signaler. Après, la chose jugée, il faut laisser le procès aller à son terme, que chacun puisse exposer. C'est vu. La question qu'il y a derrière, j'aimerais plutôt revenir sur ce que vient de dire le prêtre, qui est quand même très intéressant. C'est-à-dire que où est la problématique de la pédophilie dans l'Église ? C'est-à-dire ce type d'affaire. D'abord, je pense qu'il est indispensable de le dire et d'en parler, et de mettre les choses sur la table, et de les mettre très clairement, et de procéder à un certain ménage au sein de l'Église. Et ce type de procès a ce mérite-là. Après, la question, c'est quelles sont les raisons profondes ou les intentions qu'il y a derrière ce silence. Le problème, c'est que quand on aborde le débat comme ça publiquement, on a l'impression que finalement, l'institution, l'Église, est complice de ces actes, et qu'elle dissimule la pédophilie. Or, moi, je pense que le problème, c'est que l'idée, ce qui sous-tend ce silence, c'est de dire, il ne faut pas laisser éclater un nouveau scandale qui puisse faire du tort à l'institution. Sauf qu'au bout du bout, le scandale éclate quand même, et que le tort est fait. Et qu'à chaque fois, en fait, que les choses iront devant la justice, ça permettra aussi d'ancrer l'idée qu'il faut arrêter de couvrir, et que quand il y a scandale, il faut le dénoncer. Il faut le mettre sur la place publique, il faut le régler tout de suite.
Céline Masse, pour poursuivre ce que dit Stéphane Vernet, l'institution, l'Église catholique est éclaboussée désormais avec ces affaires, parce qu'au fond, il y en a eu au Chili, aux États-Unis, en Irlande et ailleurs.
Oui, absolument. Il y a aussi le cas, comme vous le savez, du secrétaire de la congrégation qui n'a pas souhaité témoigner en se réclamant du droit international, qui a aussi beaucoup choqué. Et si on simplifie...
Qui est membre de la curie romaine, hein, qui fait valoir son statut international.
Un statut souverain qui l'empêcherait de témoigner. Et je pense que, comme le disait Stéphane, en fait, ce qui est choque profondément, c'est le fait que l'Église, qui devrait se réclamer, ou une confession, quelle qu'elle soit, d'une autorité morale, hein, ou d'une limpidité morale, ne le fait pas. C'est aussi simple que cela, et l'opinion publique aujourd'hui ne peut plus supporter ce type de cachotterie ou manque de clarté quand on se réclame d'une autorité morale.
Myriam Ankawa, il faut une opération, pardon pour ces mots, manipulite sur l'Église catholique ou pas, ou il faut peut-être apaiser un petit peu le débat.
Il faut que la France avance sur ces sujets, parce qu'on n'est pas les premiers en la matière, il faut le rappeler. Hein. On a parlé des États-Unis, il y a eu l'Allemagne aussi, le Chili. Donc il faut regarder cette question en face. Bien sûr, il y a les faits, bien sûr, il y a la justice et il y a la défense d'un homme, mais il y a aussi un vrai problème de société. Et donc, dans ce procès, il y a aussi, on s'attaque à ce qu'il charrie de symboles. Et on a beaucoup vu par le passé que derrière le procès d'un homme, il y avait vraiment un véritable scandale. Donc, il était temps.
François Dorcival, vous rappelez la lettre du pape François, c'était à la fin du mois d'août. Nous l'avions évoqué sur le plateau des informés. Et le Saint-Père avait adressé cette lettre au peuple de Dieu pour condamner, avait-il dit, des atrocités et appelé, je le cite, à redoubler d'efforts pour éradiquer cette culture de mort. Les blessures ne connaissent jamais de prescription. Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent?
Alors, pour ce qui est de l'Église elle-même, oui, il n'y a jamais de prescription. Parce que c'est l'institution par nature. La question qui se pose est de savoir si nous sommes là pour faire le procès de l'Église ou le procès d'un homme. Aujourd'hui, c'est le procès de la responsabilité d'un homme. Et naturellement, on est très vite conduit à vouloir faire le procès de l'Église parce que c'est ce qu'il y a de plus commode. Et en particulier, curieusement, uniquement le procès de l'Église occidentale. Parce que, comme si les crimes de pédophilie ne concernaient que l'Occident. Donc ça, je constate ça, je m'en étonne, mais je vois bien à quoi c'est utilisé. L'autre point, c'est que le cardinal Barbarin, comme homme, il assume ses responsabilités. Ouais. Dans la hiérarchie ecclésiale, bien entendu, mais sa responsabilité aussi dans son sacerdoce. Et ça échappe complètement à la justice humaine. Parce que, effectivement, les hommes ne sont pas là pour juger s'il a bien fait ou mal fait devant sa responsabilité de cardinal.
Allez, nous aurons l'occasion, bien évidemment, demain et après-demain, dans les informés de France Info, de revenir sur ce procès qui va se poursuivre en ce début de semaine. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Édouard Philippe annonce une nouvelle loi pour faire face aux violences en marge des manifestations des Gilets jaunes. Le texte pourrait être présenté dès le début du mois de février. Le Premier ministre annonce depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes le placement en garde à vue de 5600 personnes. Environ un millier ont fait l'objet de condamnations. C'est l'un des anciens visages du mouvement Gilets jaunes. Jacqueline Mourot est en train de mettre sur pied un parti politique baptisé Les Émergents. Elle ne sait pas encore quand ses statuts seront déposés, ni même si elle en prendra la tête. Ce parti aura pour objectif, entre autres, de demander une grande réforme de la fiscalité. Emmanuel Macron salue son engagement pour la liberté et l'honneur de la France. Guy Charmeau, doyen des Compagnons de la Libération, est mort ce lundi à l'âge de 104 ans. Il ne sont plus que 4 de Compagnons de la Libération encore en vie actuellement. En 32e de finale de la Coupe de France de football, Lille reçoit Sochaux, club de Ligue 2. Le match démarre dans 5 minutes. En préambule de cette rencontre avait lieu le tirage au sort des 16e de finale de la compétition. À retenir, entre autres, le PSG, quadruple de nom du titre, qui recevra Grenoble, noble pensionnaire de la deuxième division.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Parce que nous ne devons jamais oublier, 3 cérémonies se sont donc tenues à Paris en hommage aux 17 victimes des attentats du 7 janvier 2015. Et oui, le temps passe, Charlie Hebdo, souvenez-vous, Montrouge, l'attaque de l'hyper-cachère, des journées d'angoisse nationale. On y pense tous les jours, a expliqué Riss, c'est le patron de Charlie, invité de France Info ce matin.
Le 7 janvier, c'est un peu tous les jours le 7 janvier pour nous. Enfin, on y pense tous les jours. Sans qu'il y ait forcément de cérémonie, on est toujours un peu dans cette journée-là. On peut rire, mais ça n'empêche pas, dans un coin de sa tête, d'avoir en mémoire tout ce qui s'est passé, d'être conscient de tout ce qu'il y a de grave qui se passe dans la société.
Céline Masse, est-ce que vous avez la sensation que la nation se rappelle, vraiment ?
Oui, en tout cas, je pense
qu'elle se souvient.
Oui, je pense qu'il y a eu énormément de témoignages qui ont été publiés dans la presse, sur les réseaux sociaux. Ça a été un moment pour nous tous qui nous a fracassé le cœur. Et d'ailleurs, le texte de Philippe Lançon, Le Lambeau, est un texte absolument magistral que je conseille à tout le monde de lire.
Absolument.
Oui, la nation se rappelle. Après, un point moi qui me frappe dans les commentaires que j'ai pu entendre aujourd'hui, c'est que on oublie quand même à l'époque que le 9 janvier, la manifestation avait lieu dans une ambiance et un climat économique et social qui n'était pas forcément très réjouissant, et qu'il y a eu une parenthèse de solidarité dans un moment de tragédie immense. Mais François Hollande, à l'époque, n'était pas beaucoup plus populaire que ne l'est aujourd'hui le président de la République.
Vous évoquez la manifestation du 11 janvier.
Du 10 et 11.
Il y a eu ce dimanche extraordinaire, hein, place de la République, absolument. Cette mobilisation. Myriam Ankawa, vous la rappelez également. C'est vrai que le climat national a changé depuis.
On se pose la question, est-ce qu'un tel rassemblement est encore possible aujourd'hui, franchement? On peut poser cette question, j'espère que oui. Et en même temps, il y a des signaux inquiétants, très inquiétants. Je pense à Zineb El-Zraoui, qui est journaliste, qui est à Charlie Hebdo, et qui est menacée extrêmement violemment. Donc oui, il y a un climat, et oui, il faut se souvenir.
Stéphane Vernet, sur ces questions de la mémoire collective et du climat, au fond, qui a changé dans ce pays avec... Attention, il n'y a aucun parallèle qui est fait, je le précise, pour tous ceux qui seraient prêts à dégainer sur tel ou tel réseau social. On ne fait aucun parallèle entre le mouvement des Gilets jaunes et les attentats de janvier 2015. Je tiens à le préciser quand même, on ne sait jamais. Mais tout de même, il y a quelque chose de l'ordre du glissement dans le climat social dans ce pays.
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu sur les 10 et 11, les rassemblements républicains qui étaient des rassemblements spontanés, les 10 et 11 janvier 2015, il y a eu 4 millions de personnes qui sont descendues dans la rue. On n'avait jamais vu ça en France. Ça a été le plus grand rassemblement de solidarité qu'on ait jamais enregistré dans ce pays. Avec quoi? Avec la volonté de défendre la liberté d'expression. Je suis Charlie, c'est quand même ça à la base.
On n'a pas peur.
Des embrasses, on n'a pas peur. Les forces de l'ordre, il y a eu quand même 3 morts sur les 17 hein, dans la vague d'attentats, hein, puisqu'il y a eu la policière de municipale de Montrouge et deux policiers tués dans l'attaque de Charlie. Il y avait une espèce de communion, de générosité. Enfin voilà, il s'est passé quelque chose d'extrêmement fort. C'était il y a 4 ans. Regardez aujourd'hui, même si on ne fait pas le parallèle, évidemment, mais quand même, regardez le climat aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, puisque vous venez d'évoquer les réseaux sociaux, Jean-François. Il faut voir les messages de haine, d'insultes, les menaces qui sont proférées à l'encontre des journalistes et qui se font cracher dessus, agresser. Et Castaner qui disait cet après-midi même, la phrase qu'on entend le plus aujourd'hui dans la bouche des policiers, c'est qu'ils ont voulu nous tuer. C'est délirant. C'était il y a 4 ans. Et je suis stupéfait par le contraste et ce qui est arrivé à notre société en un temps aussi court et que je ne m'explique pas.
François Dorcival, vous partagez le point de vue de Stéphane Vernet?
Je le partage totalement. Et j'ajoute que même l'antisémitisme, dont on aurait pu croire que ce massacre épouvantable qui suivait celui de Toulouse, etc., finirait par arrêter, par cristalliser, justement. Alors, on voit que ça continue de prospérer d'année en année. On voit que... Alors, on s'est d'une certaine façon habitué au terrorisme. Mais l'affaire de Strasbourg, il y a quelques 3 semaines, 15 jours, est venue nous rappeler qu'il était toujours là, dans la foule. Et donc, c'était en réalité un appel à la vigilance que ces manifestations de 2015, et nous y étions tous derrière des banderoles, la presse avec Charlie, pour défendre précisément la liberté de la presse. Je ne pourrais que redire ce que Stéphane a très bien dit sur les messages que l'on entend aujourd'hui. Et donc, ça montre une dégradation terrifiante du climat dans ce pays depuis... quelques mois.
Céline Masse, pour conclure, hein, ces informés de France Info, au fond, l'année nouvelle a déjà bien démarré, nous sommes le 7, c'est ça? Donc, on aurait plus que jamais besoin de dialogue dans ce pays?
Bien sûr, mais je nuancerai un petit peu ce que François et Stéphane ont dit, parce que je pense que les attentats de Charlie ont fait rentrer l'irréalité dans notre tête, quelque chose qu'on pensait absolument pas possible s'est déroulé, et que si demain un événement de ce type inédit se passait en France, je parierais pas qu'on n'aurait pas le même élan de solidarité qui a eu lieu les 10 et 11 janvier. Je crois vraiment que les gens pourraient se rassembler autour d'un drame de cette ampleur.
On ne peut pas dire qu'il y ait eu un gros mouvement de solidarité avec les Strasbourgeois.
Parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est une succession et qu'on n'est pas dans la même théâtralisation, si j'ose dire, dramaturgie morbide et tragique de celle de 2015.
C'est même l'inverse qui s'est produit. Hein. Vous avez des gens qui, pendant que l'attentat avait lieu, disaient que, c'était fait pour empêcher les gilets jaunes de manifester. On arrive à des sommets.
La une de West France demain.
Les déclarations d'Edouard Philippe de ce soir.
Et vous, avec vous, François d'Orcival, la une de Valeurs Actuelles.
Oui,
on
va revenir sur ce que l'on peut retenir de Houellebecq.
Allez, ça va être intéressant également, et je vous conseille également, ça vous regarde sur la chaîne parlementaire, sur LCP, avec Myriam Ankawa. Merci à vous, merci Céline Masse,
merci
François d'Orcival et Stéphane Vernet. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Bonne soirée.